Harriet Taylor Mill. Son nom ne vous dit rien, c'est normal. Née en 1807 à Londres, Harriet Taylor Mill connaît la malédiction d'être une femme d'eux, celle du philosophe John Stuart Mill, connu pour ses écrits sur le libéralisme et sur l'assujettissement des femmes. Deux sujets dans l'air de leur temps et à propos desquels John dira qu'Harriet en était l'inspiratrice. Mais qu'en a dit Harriet Taylor elle-même? Du salaire des femmes aux violences conjugales, comment a-t-elle pu défendre la liberté sans pouvoir en jouir complètement? Toute cette semaine, on mène l'enquête Harriet Taylor Mill. Aujourd'hui, deuxième épisode, portrait d'une Angleterre libérale, mais pas très libérée.
De tous les écrits publiés sous mon nom, On Liberty fut plus directement notre œuvre commune, au sens littéral du terme. Parce que pas une des phrases qu'elle contient n'a pas été examinée plusieurs fois par nous deux, reformulée de plusieurs façons et purgée des défauts que nous y trouvions. Dans la pensée ou dans l'expression avec une extrême attention. En conséquence, et bien que mon épouse ne pût effectuer la révision finale, cet ouvrage est de loin celui qui, du seul point de vue de la composition, surpasse tout ce que j'ai écrit avant ou après. Il est difficile de lui attribuer telle ou telle réflexion plus qu'une autre. Tout le mode de pensée qu'exprime le livre était clairement le sien.
Bonjour Aurélie Knuffer.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paul Valéry à Montpellier, membre de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez en histoire féministe de la philosophie et vous êtes en train de préparer un colloque prévu en 2025 sur Harriet Taylor à l'université Paul Valéry. On vient à l'instant d'entendre un extrait de l'autobiographie de John Stuart Mill qui date de 1873 où il dit que le texte On Liberty, donc sur la liberté, est un ouvrage commun, c'est-à-dire écrit avec Harriet Taylor Mill, mais il faut quand même dire que leur ouvrage commun remonte bien avant, en fait, depuis leur rencontre en 1830, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, alors, c'est un passage très important de l'autobiographie de John Stuart Mill, dans lequel il revient en général sur sa collaboration avec Harriet Taylor ou Harriet Taylor Mill, depuis leur rencontre en 1830. Et il indique que cette collaboration, ce travail commun a été croissant jusqu'à la rédaction à quatre mains, à deux mains, de On Liberty. Donc, leur travail commence dès les années 30, dès leur rencontre, je le disais. Et il faut noter que tous deux sont issus d'une famille politique, non pas identique, mais qui est très proche. John Stuart Mill a été formé, notamment par son père, à l'utilitarisme. Mmh. Et il évolue dans un milieu intellectuel progressiste, radical. En ce qui concerne Harriet Taylor Mill, on connaît moins son éducation politique, la manière dont elle a été formée aux idées politiques de son temps, du fait tout simplement du manque d'écrits ou de témoignages sur ce point. Mais on sait qu'elle fréquentait, avant de rencontrer John Stuart Mill, des milieux progressistes, les milieux dits unitariens à Londres, où se croisaient des chartistes, des féministes, donc des individus, des intellectuels et des intellectuels le progressistes. Et c'est d'ailleurs par ce biais qu'elle fait la rencontre en 1830 de John Stuart Mill.
Donc tous les deux ont des idées assez proches, se rencontrent, on l'a raconté hier avec notre invitée Françoise Orazi, ils se rencontrent en 1830 à travers donc ce groupe des unitariens, commencent une relation intellectuelle, puis amoureuse, jusqu'à On Liberty qui date de 1859, mais on doit dire quand même que Harriet Taylor meurt en 1858, donc juste avant cette parution, et tout le long de leur relation est marquée par un engagement féministe. Notamment, il commence, je vois aussi, avec des articles signés sur les violences conjugales. Donc, leur engagement commence dans les années, au milieu des années 40, et ils vont signer un certain nombre d'articles sur le sujet. On voit bien que là, ce sujet des violences conjugales est très actuel d'une certaine manière. C'est-à-dire que leur engagement politique tient à un certain milieu, à un certain contexte, mais à quelque chose de tout à fait actuel.
Oui, vous faites très bien de rappeler ce point. Alors, simplement, je me permets aussi de préciser que dans son autobiographie, John Stuart Mill tient à préciser que ce n'est pas Daria Taylor qui l'a pris goût ou qui l'a découvert le féminisme, hein, que c'est à l'inverse, hein, ou que ce seraient ses propres idées féministes qui auraient suscité l'intérêt d'Harriet Taylor pour lui. Donc, John Stuart Mill affirme avoir été sensible à la cause des femmes dès la fin des années 20, notamment en opposition à son père, James Mill, le philosophe et théoricien, qui n'était pas favorable à l'extension du suffrage universel aux femmes. Donc John Stuart Mill prend très tôt le contre-pied de son père. Et donc, dès sa rencontre avec Harriet Tyler Mill, en effet, la question des femmes, du droit des femmes, et comme vous le disiez à l'instant, des violences conjugales, vont les intéresser. Ce ne sont bien sûr pas seulement ces objets hein, sur lesquels ils travaillent en commun, mais il est vrai que c'est une très grande partie de leurs intérêts théoriques, philosophiques et politiques. Et donc, dans les années 40... vont être publiés une série d'articles co-signés, mais dont John Stuart Mill dira ensuite qu'ils sont principalement du fait d'Harriet Tyler, même s'il est toujours difficile de déterminer qui a écrit quoi et qui est l'auteur ou l'autrice de quoi. Et donc toute une série d'articles pour évoquer ce problème des violences conjugales, et notamment des réactions juridiques, législatives à ce problème, hein, qui tient à la structure même du mariage, qui fait de la femme la propriété de l'homme. Et dans le cas où les hommes sont particulièrement violents, la femme devient soumise aux pires exactions. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est un point qui avait été souligné par Michel Ledeuf, c'est que en prenant pour objet les violences conjugales, John Stuart Mill et Harriet Tyler inventent un nouvel objet philosophique. Hein. Ils produisent un nouvel objet philosophique et théorique et qui jusqu'à présent n'avait jamais été examiné pour lui-même en tant que tel. Un des articles qui a été publié dans ces années a été traduit dans le volume de Françoise Orasi, mais pour l'instant, les autres ne sont pas encore accessibles pour un public francophone, ce qui est bien dommage.
Donc vous les connaissez par contre, Aurélie Knüffer, ces articles?
Oui, je les connais, même si ce n'est pas ce sur quoi j'ai travaillé en priorité. Mais ce qui est particulièrement frappant, voilà, c'est d'abord la nouveauté de cet objet, et puis ensuite la critique qui est produite hein, des institutions qui rendent possible, qui autorisent, qui sont responsables de la perpétuation de ces violences.
Ce qui est frappant dans cet article, Aurélie Knüffer, je parle notamment de cet article qui est publié justement dans les textes traduits et présentés par Françoise Orasi. Donc c'est un article qui date du 31 mai 1850. C'est que je parlais de l'actualité, mais on y voit quand même deux éléments qui sont extrêmement frappants et qui nous sont encore contemporains sur les violences conjugales. C'est d'une part le fait que Harriet Taylor mette en avant le fait qu'une femme, une fois qu'elle a été victime de violences conjugales, n'ose pas revenir chez elle, ou en fait est doublement peur de son mari qui, condamné, va vouloir en fait se venger. C'est-à-dire c'est vraiment la peur de vivre avec l'homme qui l'a battue. Et puis la deuxième chose, et j'aimerais lire ces lignes-là, elle dit « Il n'est pas surprenant que ces affaires ne soient presque jamais révélées par la partie lésée elle-même. Et lorsqu'elles sont portées devant un juge ou un tribunal par un tiers qui en a eu connaissance par hasard, l'accusation ne tient que très rarement parce qu'il est impossible de convaincre la victime tremblante de dire la vérité de manière suffisamment claire pour mener à une condamnation ou pour confirmer celle-ci si elle a été prononcée en première instance. » C'est-à-dire que déjà là, on a aussi cet élément très contemporain du silence, de la peur de dire, de la peur de parler.
Oui, en effet, c'est tout à fait frappant hein, de relire ces textes à l'aune des réflexions qui sont et des combats qui sont menés actuellement contre les violences conjugales. Et Harriet Taylor pointe un phénomène qui ne cesse pas d'être mis en évidence par les féministes aujourd'hui, hein, à savoir que elles n'osent pas aller porter plainte, elles n'osent pas aller devant la justice parce que la justice les protège insuffisamment et qu'elles demeurent soumises ensuite à la vengeance de leur bourreau, hein, puisque elles restent, une fois que leur époux a été en prison, hein, s'il va jusque-là, elles restent soumises à lui. Donc, il y a vraiment cette cible qui, dans ce texte, hein, qui est la manière dont les institutions protègent insuffisamment les femmes et même sont responsables de la perpétuation des violences parce qu'elles n'autorisent pas les femmes à s'émanciper de leur mari.
Donc il y a cet engagement contre les violences conjugales qui est une manière de matérialiser, en tout cas de concrétiser cette relation aussi intellectuelle entre Harriet Taylor et John Stuart Mill d'une manière politique. On pourrait aussi citer la manière dont Harriet Taylor a influencé John Stuart Mill. On trouve ça dans son livre « Les principes d'économie politique » qui date de 1848 où il évoque notamment aussi la question très actuelle aussi du salaire des femmes qui sont à travail égal moins bien payé. Comment en fait va s'articuler ce type de proposition féministe, intellectuelle et politique avec, comme vous l'avez dit Aurélie Knuffer, l'utilitarisme et le libéralisme ambiant? Comment le lien va être fait par Harriet Taylor et John Stuart Mill?
Alors, tout d'abord, ce qui est frappant dans leur collaboration intellectuelle, c'est qu'en effet, elles se déploient sur différents plans, hein, dans la publication d'articles qui répondent à des faits divers, hein, qui n'en sont pas en réalité, mais à cette violence structurelle qui s'abat sur les femmes mariées. Mais aussi, ce travail va se déployer sur le plan d'ouvrages théoriques, hein, tels que les principes d'économie politique, qui est publié d'abord en 1848, puis, comme on le verra également, le travail commun sur de la liberté. Alors, pour évoquer la question de l'utilitarisme et du libéralisme en quelques mots, l'utilitarisme, c'est la doctrine défendue par Bentham, Jeremy Bentham, que John Stuart Mill connaissait bien puisqu'il était un ami de son père, James Mill. James Mill a formé son fils, John Stuart Mill, au principe de l'utilitarisme pour en faire un véritable utilitariste. Alors, en quoi consiste cette doctrine? C'est la doctrine qui a à la fois un versant de philosophie morale et de philosophie politique qui vise à réformer les institutions et qu'il pense qu'il faut réformer les institutions et les mœurs en faisant valoir le principe d'utilité qui consiste à favoriser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Qu'est-ce que c'est une action bonne? C'est une action dont les conséquences favorisent le bonheur. Qu'est-ce que c'est une bonne loi? Pour le dire vite, c'est une loi dont les conséquences maximisent, comme on le dit, le bonheur du plus grand nombre. Donc voilà pour l'utilitarisme. Et quant au libéralisme, c'est une question extrêmement vaste. Je m'en tiendrai tout simplement au libéralisme de John Stuart Mill. Le libéralisme de Mill va consister à défendre l'idée selon laquelle il est nécessaire et il est désirable qu'une société garantisse la pluralité des caractères, la pluralité des modes de vie, la pluralité des modes d'existence et la pluralité des opinions. Et donc, pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Parce que, à la fois, cela permet le bonheur individuel, qui consiste dans l'accroissement, l'actualisation des capacités de chaque individu. Donc, ce que permet la liberté, c'est-à-dire la possibilité de développer son caractère comme on l'entend, c'est que cela garantit que les individus vont pouvoir développer ce qu'il y a de plus individuel en eux, c'est-à-dire leur individualité. Mmh. et ainsi être heureux, hein, le bonheur se confondant précisément chez Mill, et c'est en cela qu'il travaille de l'intérieur l'utilitarisme, c'est qu'il considère que le plus grand bonheur ne se trouve, ne s'acquiert individuellement qu'à condition que l'individu ait développé pleinement ce qu'il y a d'individuel en lui, soit pleinement lui-même, pour le dire un peu grossièrement. Alors depuis tout à l'heure, j'ai laissé un peu Harriet Tyler Mill de côté, c'est ce qui est tout à fait blâmable. Mais en réalité, il faut souligner que John Stuart Mill, de son côté, travaille l'utilitarisme et le transforme de l'intérieur, disons en défendant ce principe de liberté individuelle. Mais en réalité, c'est un parcours qui est similaire à celui d'Harriet Tyler. C'est-à-dire que Harriet Tyler, dès les années 30, dans des textes qui, là, pour le coup, malheureusement, ne sont pas traduits, qui sont des brouillons, qui sont des fragments. Mais dans ces textes, dès les années 30, Harriet Tyler essaie de réfléchir au principe de l'utilitarisme et formule, dans des textes très frappants, des propositions qu'on retrouvera presque 30 ans plus tard dans le grand ouvrage de la liberté. C'est-à-dire qu'on trouve dès les années 30, dans les textes d'Harriet Tyler, la formulation de ce qui est appelé plus tard dans De la liberté, le principe de liberté, c'est-à-dire l'idée que aucun individu n'a le droit d'interférer dans la liberté individuelle d'un autre, mis à part les cas où l'action du premier individu nuit au bonheur des autres. Donc, si je peux le reformuler, le principe de liberté, c'est celui qui apparaît dans l'ouvrage de 1859, dans De la liberté, et si je peux peut-être le lire.
Oui, allez-y.
John Stuart Mill affirme, John Stuart Mill et Harriet Tyler affirment, en 1859, l'objet de cet essai est de poser un principe très simple, fondé à régler absolument les rapports de la société et de l'individu dans tout ce qui est contrainte ou contrôle, que les moyens utilisés soient la force physique par le biais de sanctions pénales ou la contrainte morale exercée par l'opinion publique. Ce principe veut que les hommes ne soient autorisés, individuellement ou collectivement, à entraver la liberté d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Donc voilà ce qui est formulé, c'est le principe fameux, le principe de liberté ou le principe de non-nuisance, harm principle en anglais, qui apparaît dans le livre de 1859, qui est vraiment un des passages les plus célèbres de la liberté. Et ce qu'ont bien souligné des commentateurs et des commentatrices d'Harriet Tyler Mill, c'est qu'on trouve, dès 1830, le début des années 1830, des tentatives de formuler quelque chose de similaire à ce principe de liberté. Alors si je traduis un peu à la volée le texte anglais, d'Harriet Tyler Mill, dans un texte de 1831 qui s'appelle « The Nature of Marriage Contract », donc « La nature du contrat de mariage », elle écrit « Chaque être humain a un droit à une liberté personnelle qui n'intervient pas dans le bonheur des autres ». Donc, on peut dire que c'est une des premières formulations du principe de liberté individuelle. Et alors, en ce qui concerne la manière dont cet utilitarisme et ce féminisme propre à Harriet Tyler et à John Stuart Mill s'articulent avec le féminisme, on peut dire tout simplement que tout l'enjeu pour Harriet Tyler comme pour John Stuart Mill sera de montrer que les femmes, comme tous les individus, ont le droit à développer leur individualité sans être contraintes, sans être empêchées de le faire par l'action de la société ou des hommes en particulier.
Mais alors, Aurélie Knuffer, oui, sur ce point, parce que l'Angleterre, au XIXe siècle, était majoritairement libérale quand même. C'est-à-dire que c'était une idéologie ou une philosophie qui était quand même partagée par des penseurs, mais aussi peut-être par l'opinion publique, vous me direz. Comment ça se fait que le féminisme, qui semble en découler aussi naturellement, ne soit pourtant pas défendu par tous à l'époque? Comment vous expliquez que Harriet Tyler et John Stuart Mill faisaient presque figure de marginaux dans ce paysage, alors même que le lien entre féminisme et libéralisme semble presque naturel?
Alors, tout d'abord, le libéralisme qui était prégnant à l'époque de John Stuart Mill et Harriet Taylor est d'abord un libéralisme économique, hein, le principe de non-intervention de l'État dans les affaires économiques, en effet, est quelque chose d'assez répandu. D'autre part, comme le souligne très bien Harriet Taylor Mill et John Stuart Mill dans De la liberté, l'idée selon laquelle il faut tolérer la pluralité des opinions et de modes de vie est en tout cas formellement admise par le plus grand nombre. Mais comme elle et il le soulignent également, même si cette idée de tolérance est formellement énoncée, dans les faits, elle est sans arrêt contredite, et en particulier en ce qui concerne les femmes. On est aussi dans une société victorienne, peut-être vous l'avez déjà évoqué hier avec Françoise Orazi, qui est très stricte sur le plan des mœurs, très sévère à l'égard des couples, hein, comme John Stuart Mill et Harriet Taylor, qui vivent de façon, on pourrait dire, excentrique. Oui. En tout cas,
ils ne se marient pas avant que le premier mari de Harriet Taylor meure. Donc, ils attendent 2 ans, plus précisément.
Oui, ils font l'objet.
Il meurt en 1849, John Taylor, et ils se marient donc 2 ans après. Et même 2 ans après, certains de leur entourage trouvent que c'est beaucoup trop tôt. C'est un couple, oui, comme vous disiez, excentrique.
Je reprends ce terme d'excentricité parce que c'est un terme qui est cher à Harriet Taylor et à John Stuart Mill, hein, qui défendent l'idée. Harriet Taylor, dans un très beau texte qui date également des années 1830, qui porte sur le conformisme, montre qu'en réalité, l'excentricité devrait être une vertu. Elle devrait être encouragée, elle devrait être une vertu. Et en ce qui concerne leur couple, enfin, l'excentricité, c'est le fait de ne pas vivre comme la norme et comme l'opinion publique. Autre grand thème important qui fait l'objet d'investigations très approfondies d'Harriet Taylor dès les années 30. Donc, c'est vivre contre ce que l'opinion publique décrète comme étant le bon ou le juste.
Mes chers lords, messieurs, la tranquillité qui par bonheur règne aujourd'hui à nos frontières témoigne d'une époque faste dans le gouvernement de cette grande nation. Je prie Dieu Tout-Puissant afin que sa bénédiction puisse présider à votre conseil.
J'ai peur qu'il y ait eu un soulèvement au Pays de Galles, mené par un groupe d'individus qui se font appeler les chartistes.
Quel drôle de nom.
Ils se nomment ainsi parce qu'ils ont rédigé une charte demandant le suffrage universel, des élections annuelles à bulletin secret et que les membres du Parlement soient payés. Leurs idées sont extravagantes, certes, mais elles sont fort populaires auprès d'une certaine classe.
Pourtant, vous m'avez toujours dit que les Britanniques n'étaient pas des révolutionnaires.
Je ne pense pas qu'ils le soient, mais les récoltes ont été mauvaises et quand le peuple a faim, il se plaît à épouser des thèses radicales. Si je suis soucieux, c'est uniquement pour vous et votre sécurité.
Donc, en effet, si je reviens à la question du contexte et de cette invention de ce qu'on appellera plus tard le féminisme libéral, vous avez raison, c'est tout à fait frappant que... Il nous semble aller de soi que dès lors que l'on défend la liberté individuelle, on défend la liberté individuelle de tous et de toutes. Mais il faut rappeler, et c'est ce que fait aussi Harriet Taylor Mill dans son essai sur l'affranchissement des femmes, que parmi même les penseurs, les théoriciens, les activistes les plus progressistes, il y avait de nombreux contemporains, et même des contemporaines, des femmes, qui n'étaient pas favorables à l'égalité, hein, entre les hommes et les femmes sur tous les plans. Harriet Taylor Mill évoquera le cas des chartistes, hein, ce mouvement qui visait à l'extension du suffrage universel. Elle montre très bien que parmi les chartistes, il y a certains militants qui s'opposent à l'extension du suffrage universel aux femmes. Elle a d'ailleurs une formule assez frappante, hein. Elle écrit, si je peux la citer, que le chartiste qui rejette le droit de vote des femmes n'est chartiste que parce qu'il n'est pas né seigneur. Il est comme ces niveleurs qui ne voulaient niveler que jusqu'à leur propre niveau. Donc elle ironise beaucoup, en effet, sur ses contemporains qui, et sur les membres de son propre parti politique, si on peut formuler les choses ainsi, qui, parce qu'ils sont, comme beaucoup, victimes, ou parce qu'ils véhiculent des préjugés sexistes, qui, parce qu'ils considèrent que les femmes sont d'une nature différente, ne sont pas du tout favorables à l'égalité. C'était ce que je disais tout à l'heure, même à propos de James Mill, hein, le père de John Stuart Mill, qui, dans un essai auquel John Stuart Mill va s'opposer, un essai qui porte sur le gouvernement, défendait l'idée selon laquelle les femmes n'avaient pas besoin de voter dans la mesure où la défense de leurs intérêts particuliers se confondait avec la défense des intérêts de leur époux. Donc, si leur époux avait le droit de vote, il garantissait la défense de leurs intérêts à elles.
Donc, ce qui veut dire que chez Harriet Taylor, mais aussi chez John Stuart Mill, ce libéralisme féministe, ou plutôt ce féminisme libéral, avait déjà perçu peut-être deux niveaux, en fait, de, si je puis dire, d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue presque politique, juridique, et il y a un point de vue plus politique, historique de l'ordre des coutumes ou de l'opinion publique. Par exemple, je peux citer aussi un essai d'Harriet sur la tolérance où elle dit « Ce que l'on appelle l'opinion de la société est un pouvoir fantôme, mais les fantômes exercent souvent plus d'ascendant sur les esprits irréfléchis que tous les arguments de chair et d'os qu'on peut leur opposer. » Ce qui veut dire que voilà, il y a le droit et il y a aussi la coutume, et c'est un peu les deux terrains de militantisme auxquels les Mill vont en fait s'attaquer.
Oui, alors c'est là aussi un texte assez fascinant hein, que vous venez de citer, qui porte sur l'opinion publique. C'est un des thèmes extrêmement importants de la liberté. Cette question, pour reprendre le terme de Tocqueville, de la tyrannie de l'opinion, hein, de la manière dont l'opinion publique entrave la liberté individuelle, mais aussi cette force de la coutume qui fait que on a toujours du mal à penser que les comportements novateurs, les idées novatrices puissent être bonnes ou vraies, dans la mesure où, précisément, on a tendance à croire que ce qui a toujours eu lieu, ce qui s'est toujours fait de telle ou telle manière, doit tendre à se perpétuer, à se répéter. Et donc, comme vous le disiez très, très justement, il s'agit bien sûr d'un côté de réformer, de transformer les lois, mais Harriet Taylor, comme du reste John Stuart Mill, ont tout à fait conscience que ces changements législatifs sont tout à fait insuffisants et qu'il s'agit du fait précisément de cette force de l'opinion, de cette force de la coutume et qu'il s'agit de transformer plus profondément les mœurs.
Et donc, on peut faire peut-être le lien avec le début de notre conversation, Aurélie Knuffer, sur les violences conjugales, mais aussi sur le salaire des femmes, parce que, bon, je le répète un peu, mais c'est vrai que ça m'a vraiment frappée de voir quelque chose d'aussi actuel qui a été écrit dans les années 1850. C'est là aussi où on peut faire le lien, en fait, entre ce féminisme libéral qui va forcément aussi prendre une forme très concrète, on pourrait dire, en fait. Voilà, j'ai employé le terme de militantisme tout à l'heure, mais voilà, militante. C'est peut-être ça qui apparaît, en fait. John Stuart Mill et Harriet Taylor sont des théoriciens, des penseurs militants.
Oui, c'est une très bonne façon de le décrire. L'un comme l'autre considère que l'activité philosophique contribue ou doit contribuer au progrès. Ce sont des théoriciens, enfin Harriet Taylor et John Stuart Mill, qui ont une conception de l'histoire très importante et qui accordent une très grande valeur aux écrits théoriques et qui considèrent que leur production doivent participer du mouvement progressif de libéralisation, d'égalisation des conditions, de démocratisation en un mot.
Merci beaucoup à vous, Aurélie Knuffer. De vous, on peut lire La philosophie de John Stuart Mill, repère aux éditions Vrin. Aussi, Intervention et libération d'Edmund Burke à John Stuart Mill, c'est aux éditions Classiques Garnier. Je le rappelle, en 2025 aura lieu un colloque que vous préparez sur Harriet Taylor. Ce sera à l'université Paul Valéry. Vous le préparez avec Ludmila Lorrain, qui sera notre invitée de jeudi. Et bien sûr, auditeurs, auditrices, lisez John Stuart Mill et Harriet Taylor, écrit sur l'égalité des sexes. Ce sont des textes traduits et présenté par Françoise Orasi aux éditions ENS. Merci encore à vous.
Merci.
Et un grand merci à Anaïs Isbert pour la préparation de l'émission, à Nicolas Berger pour la réalisation et à Élise Le pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série sur Harriet Taylor Mill. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission pour la réécouter.